France Culture.
Tout de suite, on fait le point sur l'info. C'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie. Bonjour à toutes et à tous. Et l'on se rendra dès le début de ce journal au Brésil pour le dernier jour de la conférence sur le climat où il n'existe toujours aucun consensus en vue entre des camps qui restent encore, on le verra, très largement opposés sur les énergies fossiles. Après que les États-Unis ont proposé un projet de plan de paix pour l'Ukraine, Volodymyr Zelensky s'est dit prêt à en discuter avec son homologue Donald Trump dans les prochains jours, mais attend davantage de garanties sur le maintien de la souveraineté de son pays. À suivre également l'ouverture prévue demain d'un sommet inédit du G20. Avec notre invité, on se demandera comment inverser la concentration extrême des richesses dans le monde. Enfin, l'actualité en France est notamment ce tollé à droite comme à gauche après la proposition du gouvernement d'augmenter le montant de la taxe foncière. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs, avait lancé un certain Jacques Chirac en 2002 pour alerter sur le changement climatique. Et hier au Brésil, c'est la conférence elle-même sur le climat qui a littéralement pris feu. Des dizaines de milliers de participants ont dû être évacués du site. Fort heureusement, il n'y a pas eu de blessés depuis, les flammes ont été maîtrisées. Reste cette légère odeur de plastique brûlé dans l'air comme un vent mauvais qui souffle décidément sur cette COP30. Véronique Robérotte, bonjour.
Bonjour.
Envoyé spécial à Belém. Alors, cet incendie a surtout fait perdre en réalité de précieuses heures et au pire moment, puisque ces négociations, donc déjà mal engagées, ne reprendront pleinement que ce matin chez vous. Elles devront s'achever quoi qu'il en soit ce soir. Or, dans le nouveau texte de la présidence soumis donc au ministre ce matin et qui serait à prendre ou à laisser, eh bien, il n'est fait aucune mention, Véronique, d'une quelconque feuille de route sur une sortie progressive des énergies fossiles.
Oui, c'est ça, dans le Mutirao, version numéro 2. Donc Mutirao, je le rappelle, c'est le petit nom de ce texte qui désigne un groupe de personnes qui travaillent à un effort commun. En l'occurrence, eh bien ici, travailler ensemble pour lutter contre la crise climatique. Eh bien, cette version ne contient pas cette fameuse feuille de route sur la sortie des énergies fossiles réclamée par 80 pays environ. C'était au départ une proposition du président brésilien Lula pour impulser une réflexion collective sur comment, très concrètement, eh bien, on peut éloigner à terme le monde des énergies fossiles, source principale des émissions de gaz à effet de serre. Le mot fossile, ce matin, n'apparaît pas dans le Mutirao, deuxième mouture. Hier soir, une trentaine de pays, menés par la Colombie, soutenus aussi par l'Europe, avaient écrit à la présidence brésilienne pour lui demander expressément d'inclure cette feuille de route sur la sortie des énergies fossiles. Eh bien, faute de quoi, il ne pourrait soutenir d'accord à la COP30, où le consensus est indispensable. Pas de consensus donc à ce stade. En revanche, il est bien inscrit dans le nouveau texte que l'aide financière à l'adaptation serait triplée pour atteindre 120 milliards de dollars par an d'ici 2030. C'est la demande des pays les plus impactés par les dérèglements climatiques. Dans le texte figure aussi qu'il faut stopper la déforestation d'ici 2030. Sans plus de précision, c'était le minimum attendu dans cette COP amazonienne. Et puis le texte réaffirme son attachement au multilatéralisme, à l'accord de Paris, mais vraiment sans réelle décision concrète, opérationnelle, et en ne s'attaquant pas, on l'a compris, de façon frontale aux racines du mal des énergies fossiles.
Et désormais, en quelques mots, que va-t-il se passer donc jusqu'à ce soir, Véronique ?
Alors, on va beaucoup parler dans les heures qui viennent, ce matin ici à Belém, de cette feuille de route de sortie des énergies fossiles, qui est le marqueur de cette COP. C'est ce qui fera que Belém sera un succès ou pas, en gros. La Colombie, qui défend fermement l'idée de cette feuille de route, eh bien, organise une conférence de presse dans une heure environ. Environ donc 80 pays soutiennent l'idée sur 189 pays présents. Arriveront-ils à faire bouger les lignes ? On verra. Une séance plénière est normalement annoncée pour la fin de matinée et une autre plus tard dans la soirée.
Merci Véronique Robérotte en direct de la COP30 ainsi qu'à Olivia Branger pour les moyens techniques. À Gaza, chaque jour qui passe est un nouveau défi lancé à l'épreuve du temps ou comment ne pas ajouter de l'horreur à l'horreur. Hier, 5 personnes dont un bébé ont encore été tuées dans l'enclave. Déjà la journée de la veille avait été l'une des plus meurtrières depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Preuve que décidément la paix des forts n'est jamais une alternative crédible à la guerre. Et pourtant, le plan de paix en Ukraine, cette fois-ci concocté dans la plus grande discrétion par l'administration américaine et très largement favorable à l'envahisseur russe, semble lui aussi faire la part belle aux mêmes méthodes, ce qu'a bien compris d'ailleurs le président Zelensky, lequel dans son adresse quotidienne diffusée sur les réseaux sociaux a déclaré vouloir une paix digne du peuple ukrainien et respectueuse de l'indépendance et de la souveraineté de son pays. Eric Bigala, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors quand bien même ce plan confirme, c'est vrai, c'est d'ailleurs sa toute première préconisation, la souveraineté de l'Ukraine, c'est écrit ainsi noir sur blanc. Dans le détail, en revanche, Eric, disons que le doute reste permis.
Oui, c'est le premier des 28 points du projet d'accord concocté par les Américains et les Russes. Je le cite in extenso, il tient en 6 mots. La souveraineté de l'Ukraine sera confirmée. Alors cela va sans dire, me direz-vous, mais sans doute que ça va mieux en le disant et même en l'écrivant, noir sur blanc, tant les points suivants peuvent être vus comme de clairs empiètements sur la souveraineté du pays. Alors il y a d'abord, bien sûr, les territoires. Alors certes, les territoires que l'Ukraine devrait céder seraient considérés comme russes de facto et non de jure, subtilité sémantique aussitôt contredite par une provision qui demande que ces mêmes territoires soient internationalement reconnus comme russes. La souveraineté territoriale de l'Ukraine est là clairement amputée. Il y a ensuite les dispositions institutionnelles. L'Ukraine est censée changer sa constitution pour y inscrire sa renonciation à intégrer l'OTAN. Elle est censée également intégrer l'Union européenne et le marché unique européen rapidement. Alors depuis quand un État souverain doit-il choisir ses alliés ou renoncer à le faire autrement que de son propre chef, on se le demande. La souveraineté militaire ensuite, c'est le point 6 de l'accord. L'Ukraine devra limiter la taille de ses forces armées à 600 000 hommes face à une armée russe qui en compte 1 300 000. Là aussi, c'est une prérogative souveraine pour un État de décider de la dimension de ses forces militaires et des nécessités de sa défense. Autre point qui signale évidemment une emprise sur la souveraineté du pays, souveraineté économique, cette fois, l'obligation qui est faite à l'Ukraine, c'est le point 23, de négocier, sous-entendu avec la Russie, l'exportation de ses denrées via la mer Noire, seule porte de sortie des exportations ukrainiennes. Enfin, et c'est peut-être la cerise sur le gâteau, peut-être on pourrait dire le millefeuille des empiètements de la souveraineté ukrainienne dont dispose ce projet d'accord, l'Ukraine doit organiser des élections dans les 100 jours, difficile de parler d'un pays souverain quand c'est une ou deux puissances étrangères qui lui dictent son calendrier électoral.
Merci Eric Biegala. Après des mois d'échanges de noms d'oiseaux entre les deux hommes que décidément tout oppose, Donald Trump et Zoran Mamdani ont prévu de se rencontrer aujourd'hui. Le nouveau maire de New York a demandé lui-même à être reçu par le président américain. Le face-à-face se tiendra donc dans le bureau ovale de la Maison Blanche, théâtre déjà de tant de scènes d'humiliation depuis l'investiture du milliardaire républicain. On se souvient évidemment de l'affrontement entre Donald Trump et le président ukrainien, mais l'on pourrait citer aussi cet échange ubuesque avec son homologue libérien ou bien encore ses attaques frontales lancées à l'encontre de Cyril Ramaphosa, le dirigeant sud-africain.
Au point d'ailleurs que le G20, qui se tiendra demain à Pretoria justement, est devenu le théâtre d'une épreuve de force diplomatique.
Oui, ce sommet, le premier de l'histoire à être présidé par un pays africain, sera inédit à double titre puisque les États-Unis n'y participeront pas, Donald Trump ayant décidé tout simplement de boycotter l'événement, une première. Emmanuel Macron, en revanche, sera lui bien présent. Le chef de l'État actuellement en tournée en Afrique sur fond de recul de l'influence française dans son ancien précaré quittera tout à l'heure l'île Maurice avant de mettre le cap donc sur l'Afrique du Sud où il ne manquera pas de s'afficher aux côtés de Cyril Ramaphosa, manière de mettre en scène son soutien à son homologue dans ce véritable bras de fer diplomatique avec Washington. Les précisions de notre envoyé spécial Marie Mollet.
Avant le début du G20, Emmanuel Macron a gardé du temps pour mettre en scène son soutien sans faille au président Ramaphosa, un ami, comme le dit l'Élysée. Les deux hommes s'afficheront côte à côte au mémorial de l'apartheid à Pretoria. Du soutien, le président sud-africain en a besoin, car Donald Trump en a fait son punching ball, sa cible fétiche sur tout le continent africain. Washington lui reproche tant de choses. Une prétendue persécution de la minorité blanche afrikaners, accusation sans preuve. Ses politiques de discrimination positive, ses positions au Proche-Orient, cette plainte déposée par l'Afrique du Sud contre Israël devant la Cour internationale de justice. Alors en guise de punition, Donald Trump a tout fait pour saboter ce G20, snober les réunions préparatoires avant d'annoncer le boycott total. Pas un Américain présent au G20, sauf surprise. Pas de signature américaine en bas de la déclaration finale, du jamais vu. Un bras de fer diplomatique qui oppose au fond deux visions du monde. Aux côtés du président Ramaphosa tout à l'heure, Emmanuel Macron va montrer qu'il a choisi son camp.
Et ce sommet des chefs d'État du G20 est aussi l'occasion qu'ont choisi plusieurs économistes réunis autour du prix Nobel d'économie Joseph Stiglitz pour appeler à la création d'un panel international sur les inégalités qui ne cessent de se creuser jusqu'à menacer à présent les démocraties. Alors l'idée serait de s'inspirer en partie du succès du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, c'est-à-dire non seulement de coordonner, de synthétiser la recherche de milliers de scientifiques chargés d'aider les gouvernements et tous les organismes multilatéraux existants par des évaluations et des analyses, mais aussi à l'instar de l'urgence qu'il y a à lutter aujourd'hui contre le réchauffement climatique, insister sur ces inégalités de revenus et de richesses qui constituent également l'un des problèmes les plus urgents du monde actuel. Et pour en parler avec nous, invité de la rédaction aujourd'hui, l'un des signataires de cet appel, Lucas Chancel, professeur à Sciences Po, co-directeur donc du laboratoire sur les inégalités mondiales de l'École d'économie de Paris. On a visiblement un petit problème de liaison, donc on va passer à l'opération suivante.
Et c'est l'opération déminage.
Face au tollé provoqué par l'augmentation annoncée du montant de la taxe foncière l'an prochain, le gouvernement a proposé hier de lancer une consultation flash transpartisane avec les parlementaires et les collectivités territoriales. La mesure technique, critiquée par des responsables politiques de gauche comme de droite, prévoit de modifier la base de calcul en spécifiant la présence d'éléments dits de confort, tels que des WC ou des lavabos, qui augmenteront artificiellement le nombre de mètres carrés pris en compte et mécaniquement donc le montant de la taxe. Au total, près de 7,5 millions de logements seraient concernés par une hausse de 63 euros en moyenne, sauf que l'idée, Rosalie Lafarge, semble donc faire l'unanimité contre elle.
L'ancien Premier ministre macroniste Gabriel Attal plaide pour l'abandon de cette hausse. Le président du RN, Jordan Bardella, dénonce un coup dans le dos porté aux propriétaires. La chef de file des députés insoumis, Mathilde Panot, accuse le gouvernement de vouloir faire les poches des Français. Ce n'est pas le bon moment pour lancer cette bombe qui risque d'accentuer la pression financière sur une partie des citoyens, pointe encore l'association de consommateurs CLCV. Et pourtant, il est temps, juge le Premier ministre Sébastien Lecornu.
Les assiettes de cette taxe foncière, quand même, datent de 1959. Est-ce que c'est encore adapté à la manière de faire? La réponse est non. Est-ce qu'il faut sans doute réviser la manière dont on calcule les bases des valeurs locatives? Sans doute. Est-ce que c'est simple? Non, parce que sinon nos prédécesseurs l'auraient déjà fait. Mais en revanche, on ne peut pas balayer cette question d'un revers de main.
Le gouvernement ne veut donc pas abandonner, d'où cette consultation pour tenter de trouver une issue, notamment avec les associations d'élus locaux. La taxe foncière, ce sont les collectivités territoriales qui l'aperçoivent, sauf qu'à l'Association des maires de France, on se méfie.
Nous ne demandons pas cette augmentation-là.
Le président LR de l'AMF, David Lisnard.
Ce que nous ne voulons pas non plus, c'est nous voir transférer l'impopularité fiscale. C'est-à-dire qu'on ne voudrait pas apprendre qu'une évolution des bases locatives qui augmenterait mécaniquement les impôts locaux d'à peu près un demi-milliard soit une forme de compensation impopulaire des 4,6 milliards qu'on nous annonce comme prélèvement par ailleurs.
Inquiet de la contribution, la purge, disent-ils, qui pourrait leur être imposée dans le budget 2026, les maires ne voudraient pas avoir à encaisser en plus à 4 mois des élections municipales la colère d'une partie des propriétaires.
À l'initiative de l'alliance majoritaire entre la droite et les centristes, le Sénat a entamé hier son opération de détricotage du projet de budget de la sécurité sociale.
Oui, la Chambre haute a rétabli deux mesures décriées, massivement rejetées par leurs collègues députés. D'une part, une taxe sur les complémentaires santé et d'autre part, un gel du barème de la CSG prélevé spécifiquement sur les retraites, les allocations chômage et autres pensions d'invalidité. Alors rappelons que ces votes ne sont toutefois pas définitifs puisque les débats vont se poursuivre entre les deux chambres du Parlement jusqu'au début du mois de décembre au plus tôt. On évoquait tout à l'heure la création donc de ce panel international sur les inégalités qui ne cessent de se creuser dans le monde et nous vous avons retrouvé Lucas Chancel, professeur à Sciences Po, co-directeur du laboratoire sur les inégalités mondiales de l'École d'économie de Paris. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Ce matin même donc 30 ex-chefs du gouvernement se sont ajoutés à l'appel que vous-même et 500 économistes de 70 pays avaient adressé aux dirigeants du G20 qui se réuniront demain en Afrique du Sud. Peut-être pour commencer, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qu'apporterait un tel groupement à la connaissance donc des inégalités par rapport à la façon dont elles sont d'ores et déjà étudiées aujourd'hui?
Alors, vous savez, on continue de vivre dans un monde qui est opaque du point de vue des flux financiers, de l'évolution des patrimoines, des revenus, notamment au sommet de la distribution chez les très, très riches. Et par conséquent, il est extrêmement important d'avoir des mesures standardisées que tout le monde reconnaît, qui font autorité, qui permettent de comparer ce qui se passe entre les différents pays, à l'intérieur d'entre eux. Et c'est bien tout l'objectif de créer une sorte de GIEC, des inégalités, ou un groupe international de chercheurs sur les inégalités qui serait indépendant des gouvernements, mais qui aurait le soutien de ces derniers. Donc c'est une très bonne nouvelle que des dizaines de chefs d'État se rejoignent à l'appel de ces centaines de chercheurs à travers le monde qui demandent cette nouvelle structure pour mesurer et pour établir une base factuelle à ces évolutions.
Vous évoquiez à l'instant donc le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. On sait que les rapports du GIEC ne peuvent rien imposer, mais ont vocation malgré tout à peser dans la prise de décision politique dès lors que le diagnostic qu'ils dressent constitue une forme d'autorité à laquelle se référer pour juger des décisions en matière environnementale. Est-ce que c'est aussi cela que vous souhaitez rendre possible à travers donc ce GIEC des inégalités ?
Vous savez, aujourd'hui, on le voit dans plusieurs pays, hein, les chercheurs, notamment sur le climat, mais aussi sur les inégalités, sont de plus en plus critiqués, sont de plus en plus vilipendés, parfois par des individus extrêmement riches qui remettent en question la probité, le sérieux de ces chercheurs. Je pense notamment à mon collègue Gabriel Zucman, il y a quelques semaines en France, qui a été attaqué ad hominem par Bernard Arnault. En fait, on a vraiment besoin d'avoir un débat dépassionné sur ces questions et surtout de protéger le travail académique, le travail de recherche, comme on a pu le faire. Ça n'a pas été facile avec le GIEC. Il faut le faire aujourd'hui sur le travail sur les inégalités, qui est aussi très fortement attaqué, notamment aux États-Unis. Les statistiques elles-mêmes sont manipulées, sont attaquées par l'administration Trump. On l'a vu aussi dans d'autres pays, dans d'autres démocraties illibérales. Et donc, c'est très important de créer une structure qui puisse, encore une fois, faire autorité, établir un diagnostic et aider à la prise de décision. Comme vous le disiez, ce n'est pas une structure qui prendra des décisions, mais c'est une structure qui nous aidera collectivement à faire de meilleurs choix pour combattre les inégalités.
Et est-il possible d'obtenir le même degré de consensus scientifique au sujet des inégalités donc que sur l'étude du changement climatique ?
Vous savez, on mesure l'évolution des émissions carbone à travers les différents pays. Il y a différentes manières de le faire. Le GIEC a été extrêmement important pour nous donner ces bases factuelles et on peut mesurer l'évolution des inégalités de revenus, de patrimoine, mais aussi d'exposition à tel ou tel type de pollution, par exemple, les inégalités entre genres ou d'accès à l'éducation, etc. On peut le faire sur une base factuelle, sur une base standardisée et c'est justement à cela que servirait une telle structure. Nous, on a commencé, on pense avoir posé les bases de ce à quoi pourrait ressembler ce type de consortium avec le laboratoire sur les inégalités mondiales. On travaille avec plus de 200 chercheurs dans le monde entier. Et là, il s'agirait d'élargir encore cela, d'avoir un soutien des gouvernements. C'est très important d'avoir ce soutien des gouvernements qui souhaitent le faire. Donc, encore une fois, c'est une bonne nouvelle que des chefs d'État se soient associés à cette initiative. Et j'espère qu'on va pouvoir avancer dans cette direction.
Merci Lucas Chancel, donc professeur à Sciences Po, co-directeur du laboratoire sur les inégalités mondiales de l'École d'économie de Paris, d'avoir répondu à notre invitation et merci également à Louise Guérin pour la préparation. Depuis lundi se déroule en France la 29e édition de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, organisée conjointement par plusieurs associations qui favorisent l'insertion professionnelle des travailleurs en situation de handicap. L'objectif est à la fois de sensibiliser mais plus encore de réfléchir à des solutions pour réduire donc les inégalités d'accès à l'emploi. Et en la matière, Rachel Escolano, même si des progrès ont été faits, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir.
Il reste encore du chemin à faire pour mettre fin aux stéréotypes sur le handicap dans le milieu professionnel. Mais Caroline Dekerl, directrice de l'AGFIP, l'association pour la gestion des fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées, ne perd pas espoir.
Il faut poursuivre la mobilisation. On est convaincus que ça va passer par une démystification de ce que sont les situations de handicap au travail. Dernièrement, j'étais avec une entreprise du bâtiment qui me disait que chez elle, c'était pas possible de recruter des personnes en situation de handicap, alors que si elle avait eu connaissance que le handicap à 80% peut être invisible, on peut tout à fait faire de la couverture en ayant par exemple un handicap auditif.
Frédéric Cataneo, joueur professionnel de tennis fauteuil et conseiller France Travail, a eu du mal à trouver un emploi après son accident de la route en 2004. Mais selon lui, aujourd'hui, de nombreuses entreprises tentent de faciliter le recrutement.
Quand je suis rentré à France Travail, j'ai eu un aménagement de poste. Après, j'ai demandé quelques adaptations techniques. Par exemple, une porte, c'était des portes pleines. Quand on ouvre la porte en urgence, si je suis derrière, je peux être en situation dangereuse et pourquoi pas tomber. Donc, ils ont changé toutes les portes de l'agence. Je vois à France Travail, quand l'entreprise a un besoin, elle met bien, tous nos postes sont accessibles pour les personnes en situation de handicap. Donc, il y a quand même une évolution qui a été faite.
Pourtant, les chiffres révèlent qu'il existe encore des barrières à l'insertion professionnelle. En 2024, le chômage touchait 12% des actifs en situation de handicap, contre 7% pour les personnes non handicapées.
On termine avec un mot rapide du temps pour cet après-midi ensoleillé sur le quart sud-est, couvert partout ailleurs. Quant aux températures, elles seront comprises entre 4 et 9 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Fabien Etchecopin. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Julie Paco pour le prochain journal de la rédaction.